Swing Time 2014. Swing Time, une émission préparée et présentée aujourd'hui par Pat Giraud. Sur Swing FM, la radio du Hot Club de Limoges.
Chers auditeurs, bonjour.
Bonjour et bonsoir. Hein.
Oui.
Bonjour,
oui.
Pat.
Me voilà dans les studios de Swing FM, formidable. Ce n'est pas mon habitude, mais je suis heureux d'y être.
C'est gentil, merci.
Et aujourd'hui, l'orgamon, une drôle de machine. Quel est cet instrument étrange dont l'utilisateur semble monter en chair lorsqu'il s'y installe? Est-ce un orgue? Est-ce un synthétiseur? Ouh là là, non. Invention géniale et tout à la fois un monument d'imperfection, instrument électromécanique, rejeté par les familles des nobles orgues à tuyaux et des snobs synthétiseurs. L'orgamon évoque les naissances illégitimes, les pratiques obscures, des ateliers d'arrière-cour. La documentation difficile à réunir est si peu diffusée que tout reste à faire. Avec ses deux claviers manuels, son pédalier, ses tirettes, l'orgamon a bien des allures d'orgue à tuyaux. Ce sont ses prétentions à l'imitation qui lui valurent ses premiers succès et aussi ses premiers destructeurs. En effet, l'orgue à tuyaux était fort populaire au début du siècle. Parallèlement, au parc des orgues d'église et de concert, la Wurlitzer Company de Chicago commercialisait un orgue dit de théâtre ou de cinéma, mis au point par Robert Hop Jones et destiné à fournir les accompagnements les plus riches aux films muets à l'époque, bien sûr, en multipliant les possibilités imitatives. Véritable orchestre mécanique, l'orgue de cinéma, comme les orgues de concert ou d'église, n'était guère approprié à jouer le jazz. Le retard de l'émission et l'absence d'attaque répondaient mal aux exigences rythmiques du swing. Quelques jazzmen s'y essayèrent, pourtant comme Count Basie ou Fats Waller, qui utilisaient judicieusement les effets de registration et jouaient les basses en des temps forts au pédalier. Plus près de nous, Dick Eman enregistra tout un album sur un Wurlitzer, en duo avec le cornettiste Rudy Brava. Pour en terminer avec les tuyaux, il convient encore de citer les Jazz Price at Saint-Paul de Michael Garrig, 1968, et l'album Church Organ de Fred Van Hove, 1979. L'homme qui va bouleverser les rapports entre l'orgue et le jazz s'appelle Laurent Hamon, né le 11 janvier 1895 à Evanston, Illinois.
And now for a very lovely young lady, the wife of Louis Panassier, a song I wrote entitled La Belle Claudine. The
Milton Buckner, La Belle Claudine, fameux morceau, j'adore. Revenons donc à Laurent Hamon, né le 11 janvier 1895 à Winston en Illinois. Il dépose dès 1920 le brevet d'une première invention, une horloge électronique dont il parfait l'exactitude en 1922, par la conception d'un moteur synchrone. Il crée The Hamon Clock Company en 1928 à Chicago, commercialisant notamment une table de bridge qui utilise son moteur synchrone pour battre les cartes. Par bonheur, ses efforts ne s'arrêteront pas là. À partir de 1933, il travaille avec l'ingénieur John Amers sur un clavier électrique dont le brevet est déposé en 1934 sous le nom de Hamon Organ et présenté au public en avril 1935. Rebaptisé The Hamon Organ Company, la maison Hamon rencontre un succès immédiat. Henry Ford et George Gershwin figurent parmi les premiers acquéreurs. Les églises achèteront 1750 instruments au cours des trois premières années. Un chiffre d'affaires énorme. 200 exemplaires sortant chaque mois des ateliers Hamon à la fin des années 30. Au cours des 10 dernières années, les ingénieurs de chez Hamon déposent plus de 50 brevets d'inventions, dont le Nova Cord de M. Hamon et Williams. Et le Solovox de M. Hamon, George et Anner en 1940. Premiers instruments commercialisés fonctionnant à base d'oscillateurs. Ces innovations ne sont pas sans bousculer quelques habitudes en 1936. La Commission fédérale du commerce attaque la maison Hamon en procès, l'accusant de publicité mensongère et lui constatant le droit de vente de son invention sous l'appellation d'orgue. La maison Hamon perd le procès en 1938, mais reçoit l'autorisation de conserver l'appellation. Comprend qui peut, les experts convoqués peu après pour l'entreprise, pour un blind test en furent tous déroutés, accumulant un tiers d'erreurs dans la distinction à l'aveuglette entre orgue Hamon et orgue à tuyaux. L'élément de base de l'orgue Hamon est la roue phonique, système expérimenté en 1895 sur le dynamophone de Tadus. Kabyle, bricoleur monumental, digne d'un beau citron ou d'un Gaston Lagaffe. Commandé par un clavier, il permettait de donner des concerts à domicile par téléphone. Sur l'orgue Hamon, la roue phonique consiste en une roue métallique de circonférence régulière ondulée. Les ondulations défilant devant un aimant provoquent une variation périodique du champ magnétique transformé en énergie électrique par l'intermédiaire d'une bobine puis reconstituée en ondes sonores après amplification par un haut-parleur. La hauteur de la note est déterminée par la fréquence du passage de cette ondulation devant l'aimant, 440 passages par seconde, donne un 440. Afin de produire 91 fréquences s'étalant de 16 à 8000 Hz, le générateur comprend 91 roues réparties en 12 groupes, une pour chacun des 12 sons, à l'intérieur desquels les roues sont profilées de manière à obtenir des différentes octaves. Par l'intermédiaire d'un jeu d'engrenage, chaque groupe tourne à une vitesse appropriée. L'ensemble est entraîné par un moteur ordinaire dit de lancement, puis après mise en route par le fameux moteur synchrone inventé par Laurent Hamon. L'apparition des régulateurs de tension étant postérieure à l'invention du Hamon, il avait fallu faire appel à un moteur dépendant non pas de la tension du courant, du fait des variations de tension, l'orgue n'aurait alors pas tenu l'accord. Mais dépendant de la fréquence du courant, un système ingénieux qui devient problématique lorsque l'on veut changer le diapason.
We'll be right back.
Ah, merveilleux Wild Bill Davis trio avec Foy Smith à la guitare et Chris Columbus à la batterie. Disque Black and Blue, formidable. L'orgue joue très bien là, très bien. On entend bien les rouphoniques et tout ce qui s'ensuit sur l'orgue amont. Et on revient aux rouphoniques justement. Et oui, les rouphoniques donc tournent en permanence. Les claviers, deux manuels et un pédalier, servent à trier les notes que le musicien veut faire entendre. Chaque roue générant un son pur dépourvu d'harmonie. Il convient de combiner à la note fondamentale choisie d'autres notes qui serviront d'harmonique, non naturellement bien tempérées. Ainsi, quatre séries de neuf tirettes disposées au-dessus du clavier. Il s'agit en fait de potentiomètres destinés à donner plus ou moins de puissance à l'harmonie retenue. Elles permettent aux musiciens de configurer deux types de timbres par clavier. La dernière octave de chaque clavier manuel, dont les touches sont de couleur inversée, par rapport au reste du clavier, est destinée à appeler les timbres configurés par l'instrumentiste à l'aide de tirettes ou ceux appelés présélection définis par le constructeur et que de nombreux organistes, quelquefois, se font fort de modifier. Les notes du pédalier étant déjà pourvues en harmonie, deux tirettes seulement permettent d'en modifier le timbre. Après cette configuration, le son peut encore emprunter différents circuits. En 1936, sur le modèle BC, un deuxième générateur dit de chorus, légèrement désaccordé par rapport au premier, permettait d'obtenir un effet de vibrato. À partir de 1946, l'apparition de lignes à retard permet le choix entre trois types de vibrato auxquels il faut ajouter trois chorus vibrato lents. Par ailleurs, les sons commandés par le clavier manuel supérieur peuvent être dotés d'une percussion. L'une des harmoniques passera alors par un système qui bloque la lampe d'amplification peu après l'émission, donnant ainsi un effet percutif au reste de la note qui continue à sonner. Configurable, plus ou moins courte, plus ou moins puissante, sensible au toucher de l'instrumentiste, sur un clavier par ailleurs non dynamique, ces percussions donnent à l'amont cette attaque si caractéristique qui évoque parfois le marimba. Thank you. Si James Blues, fulgurant Jimmy Smith, quand même un grand organiste, je pense. Enfin, moi, je le pense. Voilà, bon. Bon, nous allons donc continuer notre histoire sur l'orgamon avec cette histoire de percussion caractéristique qui évoque parfois le marimba. Enfin, on peut nuancer la puissance d'émission grâce à la pédale du volume, dite pédale d'expression, avant d'envoyer le son vers la cabine Leslie, commercialisée par Columbia. Les trompettes qui diffusent les aigus peuvent être mises en rotation. Un tambour se met alors à tourner sur le haut-parleur grave. Les sons sont ainsi brassés. Ils subissent alors une déformation trémolo en vitesse rapide ou chorus en vitesse lente. C'est une drôle de chose, la Leslie aussi. Il faudrait peut-être en parler un peu plus un de ces jours. Mais enfin, nous verrons. De nombreux modèles firent suite au modèle A, variant surtout par l'adjonction des divers gadgets, la présence d'un haut-parleur incorporé et la présentation du meuble. Le grand classique reste le B3, monté sur les pieds, tandis que son concurrent, le C3, moins maniable, est monté sur les panneaux fermés. Oui, le B3, c'est plus la scène. Le C3, c'est plus la maison ou l'église. Moi, c'est moi qui pense ça. Mais à l'intérieur, finalement, c'est la même mécanique et ce sont les mêmes sons. Série D et E, ainsi que le modèle Grand 100, furent particulièrement destinés à imiter l'orgue d'église ou de concert. Quant au modèle RT3, avec son pédalier de 33 notes contre 25 sur le B3 et les sons électroniques ajoutés, il fut le dernier objet de la fierté de la maison Hammond, contemporain de la roue phonique, celle-ci étant définitivement abandonnée dans le milieu des années 70. 75 d'ailleurs, je crois même. À partir de cette date, les orgues signés Hammond se fondent dans une production morose et pléthorique de claviers électroniques, bientôt détrônés par la démocratisation du synthétiseur, mais qui n'a rien à voir avec l'orgamon, bien sûr. L'orgamon restera toujours l'orgamon. Thank you. Oh, excellent thème, je trouve. Silicon Valley, entre parenthèses, de Chevreuse, bien sûr, puisque ce disque a été enregistré finalement en Valley de Chevreuse. Ouais. C'est le Pajiro Trio avec le grand Daniel Huck au saxophone et des en moins grands Simon Schoffel au drums, dit bien sûr, enfin son nom d'origine, Pierre.
Le fils de Pierre.
C'est Simon. Le fils de Pierre, oui, oui, notre ami Pierre Boyer, qui était un saxophoniste terrible. Mais Simon Boyer à la batterie.
Et Pajiro, évidemment, à l'orgue.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, l'émission se termine aujourd'hui. Et nous allons nous retrouver prochainement. Ça sera sur le thème l'orgamon, bien sûr, toujours, et ses apôtres. Voilà, donc nous parlerons des apôtres de l'orgamon.
C'était Swing Time 2014 avec aujourd'hui, Pajero.